Chapitre 11. Lorsque la troupe eut ainsi parcouru le village, et que le chef des saltimbanques eut débité à chaque coin de rue son ampoulé verbiage, on en revint musicalement toujours à l'écurie du Cheval Blanc où l'on se disposa pour la représentation promise. L'affluence des badauds fut grande en raison des séduisantes facilités qui leur avaient été données pour le paiement. Peu d'entre eux l'effectuèrent en argent. Deux tonneaux avaient été placés à la porte, dans l'un desquels furent déposées les carottes, les pommes de terre, les laitues, etc., tandis que l'autre reçut les œufs et les fromages frais qu'apportèrent les paysans pour prix de leur entrée. Afin de décider les amateurs qu'un reste de scepticisme retenait à la porte, le marquis de la Galoche fit monter sa musique sur les tréteaux extérieurs. Une nouvelle symphonie fantastique fut exécutée à grand tour de bras pour appeler dans la ruche ces abeilles incertaines. Cet harmonieux moyen n'ayant réussi qu'à moitié, le marquis de la Galoche s'avisa d'un dernier expédient qui devait être pour Jean-Paul la cause d'une terrible catastrophe. Il imagina de faire jouer une parade pour mieux séduire les récalcitrants. Panouille, le jocrisse ordinaire, était en train de s'habiller en singe pour figurer l'homme des bois annoncé. Le marquis de la Galoche, que son état d'ivresse normale empêchait de jamais douter de rien, pensa donc à charger Jean-Paul de remplacer Panouille. « Comment voulez-vous que je le remplace ?» lui objecta Jean-Paul. « Je ne sais pas un mot de ce qu'il faut dire. »« Qu'est-ce que cela fait ?» répliqua son impitoyable maître. « Il n'est pas nécessaire que tu saches rien dire, pourvu que tu répondes oui ou non, que tu fasses des grimaces et que tu saches te laisser battre, l'affaire ira parfaitement. »« Comment ? Me laisser battre ? » ?»« Il n'y a absolument que cela à faire dans le rôle de jocrisse. » « Il me semble que ce n'est pas difficile. »«
Mais du tout, je ne veux pas, moi. »«
Ah, tu ne veux pas. Il est possible, au fait, que tu ne saches pas la chose. »« En ce cas, je vais te l'apprendre. C'est encore une méthode que je tiens du conservatoire, classe déclamation. » Jean-Paul reçut alors, en guise de leçon dramatique, deux ou trois nouvelles taloches. Il en pleura de rage. Mais en définitive, son professeur de coups avait des arguments si concluants qu'il n'y avait pas moyen de lui résister. Jean-Paul monta sur les tréteaux, tout en comparant, hélas, la brutalité des maîtres qu'il s'était donné lui-même avec l'extrême douceur de ceux qu'il avait reçus de la nature et que l'ingrat avait osé abandonner. La parade commença entre la reine des îles Salmigondi, qui remplissait le rôle de Colombine, et Jean-Paul qui remplissait celui de jocrisse. Le sujet de cette bouffonnerie était des plus simples. Colombine était censée avoir chargé jocrisse de porter à M. Cassandre une bouteille de vin, et jocrisse était censé avoir bu la commission. L'intrigue n'était guère forte. Ce fonds avait besoin d'être orné de beaucoup de lazis. Jean-Paul n'en savait pas le premier mot. Aussi, quand Colombine lui dit « Orsa, viens ici, Marot, que je te parle. Qu'es-tu devenu depuis ce matin ?» Et qu'as-tu fait de la bouteille de vin que je t'avais remise pour M. Cassandre ? Jean-Paul lui répondit naïvement. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. »«
Ah, tu ne sais pas, » reprit Colombine. « Allons, réponds, Marot. Qu'as-tu fait de la bouteille de vin ?»
Ici, Jean-Paul regarda Colombine, et ne sachant pas davantage que répliquer, se contenta de lui répondre par une grimace selon la recommandation que lui avait faite le marquis pour le cas où la parole lui manquerait.
« Ah, tu te permets des grimaces au lieu de me répondre !» s'écria Colombine.
« Tiens, tiens, Marot, voilà qui t'apprendra à me faire des grimaces !» Et Colombine lança à jocrisse un vigoureux soufflet que celui-ci, ignorant l'art d'éviter les gestes de ce genre et de frapper à propos dans sa main pour en imiter le bruit, reçut consciencieusement sur la joue. Il pleura, ce qui fit beaucoup rire les spectateurs. On trouva qu'il feignait très naturellement de pleurer. Pour comble d'humiliation, il entendit en ce moment même une grosse voix qui criait « Bis ! Bis !» Il regarda. C'était son fantôme, son géant, son persécuteur mystérieux qui, les bras croisés, le chapeau rabattu sur les sourcils et d'un air gravement moqueur, fixait sur lui ses yeux brillants du milieu de la foule qu'il dominait de la moitié de sa hauteur. Cette subite réapparition fit presque s'évanouir Jean-Paul. Ses jambes fléchirent et bousculées de plus en plus par Colombine, qui s'obstinait à lui demander des nouvelles de son vin, il perdit enfin l'équilibre et dégringola du haut de la planche de deux pieds de large qui leur servait de théâtre.
Où tomba-t-il? Hélas, dois-je le dire, Jean-Paul tomba la tête la première dans le tonneau rempli d'œufs et de fromage frais qui se trouvait précisément à la porte au-dessous des tréteaux. Il y a dans la vie ordinaire des circonstances fort déplaisantes, quoique peu dangereuses au fond. S'asseoir par exemple sur une chaise absente et s'étendre de tout son long à la risée des assistants. Se coucher sur l'herbe des champs, dormir et s'éveiller tout couvert de fourmis. Avoir soif, se tromper de bouteille et boire avidement une gorgée de vinaigre. Laisser prendre une de ses basques dans la fermeture d'une porte en la tirant sur soi et déchirer l'habit jusqu'au milieu du dos au premier mouvement qu'on fait pour s'éloigner. Avoir donné les plus grands soins à sa toilette, sortir, faire à peine deux pas dans la rue et se voir éclabousser des pieds à la tête. Avoir une visite très importante à rendre et être enfermé chez soi à double tour de clé. Que sais-je encore ? Voilà certes de bien maussades aventures. Mais sans contredit, celle où nous avons laissé notre héros peut passer pour une des plus fâcheuses. Se sentir enfoncé, se sentir asphyxié, la tête en bas dans la nauséabonde mixture où il s'était précipité, ne rien voir, ne rien entendre, ne pouvoir même appeler à son secours par geste, à défaut de la voix, ce doit être quelque chose d'horrible. Oui, vous me croirez sans peine si je vous dis qu'une pareille existence serait intolérable pour peu qu'elle se prolongeât. Heureusement, le marquis de la Galoche avait été témoin de l'accident. Ce facétieux personnage commença par en rire de grand cœur, tandis que Jean-Paul étouffait. Après quoi seulement on songea à le retirer du gluant précipice. Il était temps, quelques secondes encore, et Jean-Paul se noyait dans cet océan de fromage et d'œufs. Le marquis de la Galoche le saisit par les jambes, l'enleva brusquement, le fit sauter comme une muscade, le reprit à la volée, le remit sur ses jambes tout étourdi de sa chute. « Ah ah ! » fit-il, « il paraît que tu avais faim, mon garçon. Mais que diable ! Ce n'est point ainsi qu'un enfant bien élevé doit se mettre à table. » Jean-Paul eût pleuré de rage si le gluant des jaunes d'œufs qui lui vernissait la figure lui eût permis d'ouvrir les yeux et s'il eût été moins occupé, en ce moment, du soin de se débarbouiller. Quand je dis « se débarbouiller », c'est simplement pour lui tenir compte de l'intention. Faute de linge et d'eau, plus il se frottait du plat de ses deux mains, plus il délayait ce maudit amalgame et plus il le rendait tenace. Ce fut alors qu'il passa par la tête du marquis de la Galoche une de ces idées diaboliques comme le vin et l'eau de vie lui en inspiraient souvent pour le malheur de ceux qui l'entouraient. « Par la sambleu ! » s'écria-t-il, « j'ai promis à tous ces imbéciles une foule de bêtes curieuses que j'étais fort embarrassé de leur montrer. Mais enfin, voilà mon affaire. Ne te détériore pas, mon garçon, tu es très bien comme ça. Il s'agit, au contraire, d'utiliser l'habit de jaune d'œuf et de fromage frais que tu viens d'endosser. Tu n'avais pas d'inclination pour la clarinette, soit. Il ne faut pas contrarier sa vocation. Mais tu auras du goût, peut-être, pour les rôles de sauvage. Ce sont des rôles fort agréables, où il n'y a rien qu'à se montrer et à pousser des grognements comme les naturels de l'endroit. Viens, mon vendredi. Personne ne t'a vu. Je vais perfectionner ton éducation en un tour de main et j'ose te promettre ce que nous autres, artistes dramatiques, nous appelons un succès d'estime. Ce n'est pas nourrissant, mais c'est flatteur. »